Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Que l'émission s'appelle Regarde ailleurs. Donc l'idée, c'est vraiment d'élargir sa vision sur soi, sur le monde, à travers les rencontres que je peux faire lors de différents voyages. Et là, je me retrouve dans une contrée lointaine, la Bretagne, en présence d'un poète, musicien, conteur, guide, barde et sûrement plus encore, Oséguant avec nous, Oséguant, Olivier Perpère, dit Oséguant. Tu vas nous emmener avec toi en voyage. Mais avant toute chose, j'ai envie de revenir loin, loin, loin dans le passé. Comment est-ce qu'on devient conteur ? Parle-nous un peu de ton itinéraire personnel, de là d'où tu viens et là où tu es allé toutes ces années.
Bonjour, très, très heureux d'être avec vous ce matin, et surtout que c'est propice. On a la brume bretonne et c'est dans la brume qu'apparaissent les enchanteurs, les fées. Et dans les mythologies celtiques anciennes, les dieux. En gaélique, ils appellent ça le Sethsiada. C'est un brouillard qui a la forme d'un navire et qui permet aux dieux de naviguer dans les mondes en restant invisibles. Alors, on a la brume avec nous. Alors, la question adolescent, je ne savais absolument pas comment j'allais diriger ma vie. Ce que je ressentais au plus profond de moi, c'est que je ne souhaitais pas... en tout cas, de nature, je ne suis pas un mouton, pour commencer. Donc, tout ce que je recevais comme enseignement au collège, au lycée, ça ne me convenait pas vraiment. Je sentais qu'il manquait quelque chose, quoi, quelque chose... Alors, dans l'horizontalité, c'est bien, mais il manquait pour moi une verticalité. Et tout jeune, je m'intéressais aux lectures sur les Amérindiens, notamment un ouvrage qui s'appelle Pieds nus sur la terre sacrée, qui était les photos d'un grand photographe, Edward McCurtis, quelque chose comme ça, et des photos magnifiques, juste avec des petites bribes de phrases qui sont des sagesses amérindiennes.
Du genre, nous empruntons la terre à nos enfants, la terre ne nous appartient pas, nous l'empruntons à nos enfants. Ou c'est lorsque l'homme aura pollué le dernier ruisseau, coupé le dernier arbre, qu'on se rendra compte que l'argent ne se mange pas.
Voilà, c'est ça, complètement. Et du coup, je me suis retrouvé à chercher, et je suis tombé sur des bouquins aussi de yoga, de philosophie orientale, et je me suis dit, mais nous, qu'est-ce qu'on possède ici en Europe ? Et donc, il n'y avait pas grand-chose, mais je cherchais. Alors, j'ai rencontré des hommes de tradition et des femmes de sagesse. J'ai suivi l'enseignement d'un lama tibétain quelques années. J'ai rencontré des yogis en France. Et puis, j'ai suivi tout un cursus de formation avec le yoga qui m'a beaucoup aidé. Et donc, je me suis retrouvé enseignant de yoga aussi. Et ma quête se poursuivait sur les racines des sagesses occidentales, parce qu'on nous dit « Ah, mais la tradition européenne, c'est le christianisme ». Et je dis « Non, le christianisme, il vient de Palestine. Je parlais, moi, de sagesse autochtone ». Et alors, du coup, ça nous renvoie aux Celtes. Et là, on est en terre celtique, en Bretagne, un des derniers réservoirs de cette culture sur le continent. Et j'ai rencontré des druides, et c'est surtout cet homme médecine et d'autres, mais principalement lui, qui m'a renvoyé aux sources de ma propre culture en disant, moi je viens partager la sagesse de la voix rouge, la voix du cœur, mais vous avez votre propre sagesse, et ils ont des prophéties, les Amérindiens du Nord, les Algonquoyens, où tous les peuples sont réunis autour de la grande roue de médecine, le grand cercle sacré, et chaque peuple a envoyé des sages. Il y a des sages africains, des sages asiatiques, des sages qui viennent pour nous de l'Ouest, ce qu'on appelle les Amérindiens. Eux, ils n'aiment pas trop ce terme. Hein. Ils disent, nous, on est les First Nations. Hein, on est les premiers peuples. Et puis, il dit, il manque la place des white skin, des blancs. Alors, et tant que notre petit frère blanc, il sera pas assis dans ce cercle, il y a quelque chose qui manque et qui peut pas fonctionner. Alors, j'ai poursuivi ma quête, je me suis pas mal instruit et puis surtout ouvert à la nature, parce que les Celtes, en fait, ce sont les Amérindiens de l'Europe. Hein. On a une philosophie très proche de celle des Amérindiens sur beaucoup de domaines. Les rivières, ce sont des déesses. On ne le sait pas, ça, la Seine provient de la déesse Sequana. Et le peuple des Sequans vivait aux sources de la Seine. Et tous les matins, ils bénissaient la Seine pour que les eaux portent à travers les villages, les pâtures, les forêts, leur bénédiction. Aux sources de la Seine, on a retrouvé plein de rouelles celtiques et puis des membres sculptés, et ça devait être une source guérisseuse. Et les personnes à l'époque, les Celtes, ils offraient, quand une partie d'un membre était malade, ce membre à la source, à la déesse de la source, pour qu'elle agisse sur l'artefact présenté et offert à la source.
Là, on parle effectivement de ces sagesses ancestrales, de ces peuples premiers, First Nation, Première Nation, peuple racine. C'est vrai que dans le monde entier, on a toujours eu ce qu'on peut appeler des hommes médecine, des chamans, des marabouts pour une partie de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est vrai qu'ici, en France, nous, nos sages, avant que tu parles de la culture celte, on en parlera dans cette émission radio, parce que j'ai l'impression qu'on a oublié tout ça. Et encore aujourd'hui, de plus en plus de gens sont dans une forme de quête de sens. Hein, on vit dans un monde où sévit une famine de l'essentiel, on est dans cette quête de sens. Et souvent, on va se tourner vers ces peuples pour retrouver cette sagesse des origines qu'on a perdue. Qu'est-ce qui s'est passé en Europe? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on n'a plus parlé des Celtes, des Druides? Peut-être aussi faire la différence entre les deux, parce que moi je mélange tout. Mais voilà, reviens sur le côté historique de ce qui s'est passé chez nous. Où sont nos First Nations?
Alors, c'est historique. Hein. D'abord, il y a eu l'invasion romaine qui a imposé ses dieux. Dans un premier temps, ils ont laissé faire. Et puis, c'est par un empereur romain que le christianisme est devenu la religion de l'État, hein, au 4e, 5e siècle. Ce qui veut dire qu'il y avait un dieu, une loi, un État, une vérité et un calendrier. Parce que les Romains, sous leur joug, avaient des Égyptiens, des Perses, des Germains, des Celtes, et même du côté de l'Afrique aussi des personnes, des Numides, hein, plus bas, donc des Africains de l'Afrique noire. Et tout ce monde-là a son calendrier, sa langue, sa culture et ses dieux. Et à un moment, quand l'empereur dit tel jour, telle heure, tel endroit, il faut traduire tout dans les calendriers. Et donc, eux, ils ont vu la simplification et l'outil merveilleux d'avoir un seul dieu, un seul calendrier, une seule vérité. Sauf que si on n'adhère pas à ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est considéré comme des hérétiques, des monstres. Et donc, l'Église a imposé son diktat par l'État romain. Et du coup, on a éradiqué toutes les personnes. On peut penser au Moyen-Âge que toutes les sorcières brûlées, peut-être étaient les héritières de ces vieilles cultures druidiques, en fait, hein, de ces vieilles croyances celtiques et germaniques, parce que les Germains avaient gardé aussi des choses, enfin, en tout cas pour nous, plutôt celtiques. Et donc après, le christianisme s'est implanté. On sait que les plus grandes cathédrales sont sur des lieux de culte sacré chez les Celtes, hein, druidiques. Hein. On peut prendre Chartres, Reims, et beaucoup d'églises. Et toutes les sources ont été christianisées, les sources qui étaient dédiées aux divinités, aux esprits de la nature, tout ça, ça a été christianisé. Et on a comme ça effacé aussi des textes, tous les rappels à ce qu'il y avait avant. Hein. Vraiment, ils ont fait un nettoyage incroyable, quoi. Et même, donc ce qui nous reste des bribes, c'est par les Irlandais, mais même par eux, c'est-à-dire ce sont les clercs chrétiens qui ont recopié des textes que les Philides, qui sont des bardes druides, avaient laissé par écrit. Et évidemment, remanié dans les mains chrétiennes, il y a eu des censures, donc on ne sait pas tout. Et puis des récupérations, parce qu'ils ont détourné ces textes pour faire leur catéchisme aussi. Enfin voilà, donc en Europe, on a été quand même pas mal, comment dirais-je, sauvagement même mutilé, oui, amputé de cette sagesse ancestrale. Voilà pour les raisons que je viens d'évoquer, hein, politiques et religieuses.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Pour en revenir à ton itinéraire à toi, donc tu parlais d'un mouton à cinq pattes, un mouton noir qui ne voulait pas suivre le moule. Tu étais toi aussi dans cette quête de sens et tu t'es tourné vers nos différentes traditions et spiritualités. Donc comment est-ce que tu es arrivé à la tradition celte ? C'est parce que tu es breton que tu t'es tourné vers ça ? Raconte-nous un peu ton chemin initiatique.
Oui, alors je suis malouin et à Saint-Malo, on a des devises qui nous font des amis partout dans le monde. La première devise, c'est ni breton ni français, malouin suit. La deuxième, c'est malouin d'abord, breton ensuite, français s'il en reste. Et la troisième, c'est semper fidelis, qui veut dire, c'est du latin, toujours fidèle. Alors évidemment, ça avait été donné par la duchesse Anne pour que les malouins, qui à un moment ont eu leur indépendance grâce aux corsaires, soient fidèles au duché de Bretagne. Mais c'est devenu très rapidement fidèle à soi-même. Hein. Alors oui, et puis dans mes racines génétiques, j'ai aussi du sang irlandais, donc il y a pas mal de celtes hein, dans ma génétique. Mais cette sagesse, on y vient, il y a trois portes. Il y a celle du sang, c'est vrai, la génétique, si on est porteur, on est héritier, un jour la génétique va parler, hein. Mais elle n'est pas la seule, il y a la voix du cœur aussi. C'est-à-dire que ce qui est dit dans cette tradition va vraiment toucher mon cœur profondément. Et je vais m'y reconnaître dedans. Et cette voix, elle est aussi importante que celle du sang, qui n'est pas supérieure. C'est un chemin. Et le troisième chemin, c'est celui de l'esprit. C'est-à-dire que là, je vais entrer dans des expériences qui vont me conduire à reconsidérer, surtout si je vis en Europe de l'Ouest, mon rapport à la nature, et je vais me rendre compte que tout est vivant et que je suis co-créateur aussi de ce monde. Et donc, qu'est-ce que je laisse au monde, quelle empreinte je laisse et qu'est-ce que j'offre au grand bain qui nous relie tous, que Jung appelait l'inconscient collectif, hein, qui relie tous les êtres, et avec aussi les animaux, mais aussi avec les plantes, mais les montagnes également, les étoiles, les sources. Voilà, donc c'est trois grandes portes. Alors, un moment, ça a chanté en moi, et puis ben, j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai rencontré un vieux conteur breton, effectivement un couple de druides aussi, mais encore une fois, ceux qui m'ont vraiment, pas poussé, mais interpellé et... confirmé, ben c'est un homme médecine Lakota qui me disait mais va voir tes racines quoi, va voir qui tu es et vous possédez vous les Européens une magnifique sagesse que vous avez oubliée et qui est dans vos pierres. Hein, lui les pierres pour lui c'était les menhirs, les dolmens, les tumulus. Il dit votre sagesse elle est là enfermée. Alors allez les caresser, allez leur faire des offrandes, allez leur parler. Donc je parle au passé imparfait parce que ben, cet homme médecine, il est maintenant dans la grande prairie où il n'y a plus de vieillesse, ni de maladie, ni de mort. Hein. Voilà. Donc ça a commencé comme ça. Et puis eh ben, j'ai fait mes expériences, hein. Je suis entré en cheminement. Parce que savoir une chose intellectuellement, c'est... c'est déjà bien, mais après, le vivre dans son cœur et son corps, c'est autre chose. Hein, parce que la sagesse, c'est pas dans chez les bardes, on dit que le savoir n'achète pas la sagesse. C'est-à-dire que j'aurais beau être le super érudit, connaître les textes, tout ça, mais la sagesse, c'est l'expérience de la vie, du cœur de la vie, et d'être capable de ressentir et de voir qu'est-ce qui danse derrière les événements et qu'est-ce qu'il y a au plus profond devant moi et en moi. Vérifie par toi-même, et si c'est conforme à ton bien et à celui d'autrui, eh bien, guide tes pas sur ce chemin. Voilà, eh bien là c'est la même chose, hein, en fait. Les sagesses des peuples premiers se rejoignent. C'est comme différents chemins qui mènent au sommet d'une montagne. Il n'y en a pas un meilleur. Il y a celui qui correspond à la personne qui fait son chemin. Et comme on est tous différents, uniques, il n'y a pas de brin d'herbe semblable, hein, sur cette terre, ni même de grain de sable, chacun doit trouver son chemin. Et la sagesse est de ne pas vouloir imposer son chemin à quelqu'un d'autre, parce que ce n'est pas le sien. Là aussi, on a encore beaucoup à apprendre, hein, parce que les religions ont toujours tendance à vouloir imposer leur point de vue, même encore aujourd'hui. Alors que non, il faut que chacun se nourrisse. Il y a des choses belles, hein, dans les religions, mais on n'a pas à imposer un chemin à qui que ce soit, surtout dans ce domaine, domaine spirituel, hein. Chacun doit... La rencontre avec son cœur, c'est une rencontre amoureuse. Alors quand deux amants se rencontrent, ils n'ont pas besoin du public, hein, autour d'eux, ni de règles et ni de dogmes qui va leur dire « Ah ben, il faut faire ça comme ça, vous allez faire ci et ça ». Non, c'est une rencontre amoureuse, donc c'est intime.
Tu as utilisé différents termes. Je reviens par exemple sur le mot « barde ». Tu parles des bardes. Qu'est-ce que c'est qu'un barde ?
Alors, c'est une très grande question. Alors, dans l'Antiquité, le barde est décrit comme étant le poète des Celtes. Et donc, il est décrit avec un instrument. Les Latins et les Grecs disent il joue d'une variété qui ressemble à nos lyres. Et il joue leurs compositions et aussi les... Ils récitent les mythes anciens parce que, justement, chez les Celtes, il n'y a pas un livre qui révèle la parole du Créateur, hein, qui serait le Coran, la Bible ou la Torah, et où Dieu parlerait dans les pages, et il faudrait suivre sa loi, et du coup, rien changer dans ce qu'il y dit, et que ce serait valable pour tous les êtres, à travers tous les siècles. Non, chez les Celtes, c'est la musique et la parole du barde qui raconte un mythe. C'est ça les sources sacrées de l'inspiration et on fait un voyage. Et là, on se dit, waouh, et ça rejoint de très vieilles traditions en fin de compte chamaniques. Les premiers chamans, ils ne faisaient pas de cérémonie. Ils s'asseyaient, ils prenaient un instrument de musique, ils racontaient une histoire. C'était des bardes. Et chez les Irlandais, on a une catégorie de bardes très intéressants. C'est les philides, philées au singulier, philides au pluriel, qui sont à la fois druides, bardes, et aussi guérisseurs, médiums. Et leur spécialité, c'était d'être des conteurs. Parce qu'ils avaient saisi l'importance du conte, qui est le premier langage avant la religion, avant la philosophie, avant le dogme.
Il y a un moyen de transmettre, hein, comme les griots en Afrique. Donc c'est vraiment le passeur d'une sagesse d'une génération à une autre.
Voilà. Et plus que le passeur, c'est important que lui, il transpire cela et qu'il l'ait réalisé. Sinon, voilà, c'est un répétiteur. Les philides, donc ces bardes druides, étymologiquement, ça veut dire « celui qui voit ». Alors, ou le poète, on le traduit aussi par le poète, mais c'est celui qui voit. Alors, il voit quoi ? Eh bien, il sait parce qu'il voit la réalité. Donc, c'est un sage. Hein. Ce n'est pas un amuseur public, bien qu'il peut l'être en apparence et avoir aussi profession de musicien, de saltimbanque. Mais ça va bien au-delà. Hein. Ça va bien au-delà. Voilà, un barde, il est inspiré par la terre où il est et il véhicule parce que ce ruisseau coule d'abord en lui, hein, cette fraîcheur et ce ruisseau de la vie qui coule en chaque être. Alors le barde, il en est, ça ne veut pas dire qu'il est au-dessus, mais simplement il est conscient de ce qui se passe.
Mais alors que voit-il et comment fait-il pour voir ?
Un de mes maîtres disait... Une image vaut mille mots. Et je rajoute, une mélodie vaut mille images. Alors, je vais partager, si tu me permets, voilà, l'esprit du barde. Et ce n'est pas un discours, il faut que je prenne mon instrument. Et là, on va ouvrir une porte.
Nous allons découvrir ce qu'est un barde à travers la musique.
C'est le plus vieux cordophone retrouvé en Bretagne, dans les côtes d'Armor, à un petit village qui s'appelle Paul, daté de 2 siècles avant notre ère. Alors évidemment, ce n'était pas l'instrument lui-même, parce que le bois est putrescible. C'était la représentation de cette lyre, sculptée sur une pierre votive qui était déposée sur une tombe, et de la taille de 45-50 cm. Qui ressemble un peu à une borne, c'est stylisé, hein, et on voit un homme qui a un torque. Le torque, c'est un bijou caractéristique des hommes libres, des nobles, des druides et des bardes, hein, chez les Celtes, qui tenait sa lyre sur la poitrine. Paroles et musique sont une. L'emblème de la poésie et de la musique qui orne le frontispice de nos écoles de musique, de nos conservatoires, ne chantez plus. Alors, que l'on raconte que c'est son chant qui a réveillé les premières déesses, les premiers dieux qui dormaient comme des graines enfouies au sein de l'humus. Et les dieux et les déesses ont couru dans les éclairs, le tonnerre. Ils jouaient comme des enfants et leur mère, la grande déesse. Des ondes du ciel est descendu en créant les ondes de la mer, et en étirant son corps, elle a créé les rives, les continents, les montagnes. Et la lyre est devenue la compagne des premiers dieux. Et puis arriva un temps où les premiers dieux furent chassés. Et du monde visible, ils sont entrés dans le monde invisible. Mais avant de quitter le monde visible, le dieu bon, celui que les Celtes d'Irlande appellent Dagda, Dago Devos, le bon Dieu, parce qu'il est bon dans tous les arts. Il a offert la lyre à la voûte céleste. Il l'a lancée si loin, si haut, si fort, qu'elle a traversé l'espace et elle s'est fixée tout en haut. Il y avait une étoile au reflet bleuté qu'on appelle aujourd'hui Vega. Elle s'en est ornée le front, et depuis, on peut la voir la nuit, plutôt l'été, la constellation de la lyre. Et chaque fois que l'une d'entre nous dit une bonne parole, une belle parole, un mot gentil, alors la constellation de la lyre brille plus que d'ordinaire, et elle envoie sa musique, sa mélodie sur la terre,
merci pour ce voyage passé, présent et futur dont tu partages avec nous aux Aigans un petit peu de ton art, un petit peu de ta vie, un petit peu de notre culture aussi, la culture celte. Donc là, tu nous as défini en musique ce qu'était un barde. Que reste-t-il aujourd'hui de cette culture celte ici en France? Est-ce qu'elle est encore bien présente? Est-ce qu'elle revient? Est-ce qu'elle disparaît? Est-ce que tu peux nous parler de cette culture qui est la nôtre, qui fait partie de nos racines?
Je sais que beaucoup s'y réintéressent. Bon, en Bretagne, on a la chance que par la musique, la danse, il y a toujours eu, je dirais, même si par moments ça a été plus faible, mais il y a toujours eu une continuité, une transmission. Et feignons de croire que dans la musique et la danse, on n'est pas des éléments de connaissance, de réflexion, de spiritualité, de sagesse. Après, le reste de la France, on oublie que tous les vieux territoires de ce qui constitue la France aujourd'hui, pour beaucoup, sont de vieilles terres celtiques. Je pense à l'Auvergne, les Arvernes, mais le Berry aussi, les Biturriges, ce qui veut dire les rois du monde. C'est un peuple qui élisait les rois de tous les clans et de toutes les nations celtes. Alors ce qui nous reste, oui, je dirais encore une fois, c'est là. Alors il y a un renouveau aussi druidique, donc des personnes qui trouvent nourriture et même une réalisation personnelle à travers ce cheminement qui est proposé dans des collèges ou au sein, on va dire, d'associations plus larges avec un cursus de formation. Voilà, mais ça touche pas à tout le monde. Et puis c'est des démarches volontaires. Après, bon, encore une fois, moi j'ai pas la vision de tout, mais ce qui est typique à notre culture, et ça, il n'y a pas d'autres traditions dans le monde qui possèdent cela, c'est que et ça a été dit dans les mythes, c'est que nous, à un moment, on se manifeste, on manifeste qui on est, et puis à un moment, on n'est plus là parce qu'on est de l'autre côté. Pour les Celtes, notre monde n'est que la projection dans la matière du monde de l'esprit. Et donc c'est pour ça que par moment on est là et par moment on est là-haut. Donc on fait un aller-retour. Et certains disent, oui, mais votre tradition, justement, il n'y a pas de ligne comme chez les lamas, par exemple, ou chez les yogis. Oui, mais parce que nous, c'est notre culture, c'est-à-dire on va un moment de l'autre côté, puis un moment on revient. Voilà, c'est comme ça. Pourquoi et comment? Ben parce qu'il n'y a pas de brin d'herbe semblable.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Retrouvez Oségan la semaine prochaine dans l'émission Regarde ailleurs. Oségan partagera avec nous quelques sagesses de sa voix enchanteresse, sagesse qu'il tire de son sac de conteur et poète.